qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Figeac, 97.7.
Bonjour à toutes et à tous, il est 12h à la pendule de Présence. Excellent appétit, si vous avez la chance d'être à table, moi je suis derrière le micro et je suis heureux de partager ce moment avec vous. Dans quelques instants, au sommaire de cette émission que nous allons passer ensemble, l'actualité du diocèse de Bayonne avec Nathalie Chambon, ce sera dans une poignée de secondes. Puis direction Eas, sur la route du cirque de Gavarny dans les Hautes-Pyrénées, pour découvrir deux nouveaux tableaux qui ornent la chapelle de ce lieu-dit. En compagnie de son auteur, nous serons avec le peintre Philippe Pugeot. Les informations, ce sera à 12h30. Et puis, Sébastien Maisonneuve nous parlera des coulisses, des préparatifs de la venue du pape dans le sanctuaire de Lourdes, puisqu'il est le responsable du département direction des sites du sanctuaire de Lourdes. Et enfin, nous aurons évidemment la chronique de Anne Lasserre. Voilà le programme que je vous propose de partager ensemble, et je vous propose de le débuter avec Éric Leclerc qui nous propose les titres des informations de ce jour.
Loft Orbital, une société mondiale d'infrastructures spatiales basée à Toulouse, et Marlan Space, un investisseur filiale d'HIC basé aux Émirats Arabes Unis, ont annoncé hier un programme d'1 milliard d'euros pour construire la plus grande infrastructure de satellites d'intelligence artificielle au monde. Le plan a été annoncé lors du sommet spatial international à Paris. Cela finance le saut d'une démonstration éprouvée de 10 satellites à une flotte de 50 satellites. Bonne nouvelle pour la biodiversité montagnarde, le Grand Tétras et le Lagopède alpin sont désormais officiellement protégés en France. Ces deux oiseaux emblématiques sont en danger. Le Grand Tétras a perdu près de 80% de sa population dans les Pyrénées depuis 1960, tandis que le Lagopède, rescapé de l'ère glaciaire, voit son habitat grignoter chaque année par le changement climatique. Lancement de la campagne de dons citoyens doublée par 1% Force de Planète, portée par Boucheton Coq, pour accélérer l'ouverture de nouvelles épiceries participatives dans les communes rurales d'Occitanie. Son modèle d'épicerie participative sans marge, fondé sur le circuit court et animé par les habitants. En Occitanie, 28 épiceries participatives sont déjà ouvertes et 4 nouvelles verront le jour d'ici la fin de l'année, parmi elles Asprières en Aveyron et Bourg dans les Hautes-Pyrénées. La campagne de dons est ouverte jusqu'au 7 octobre et ouvre droit à une réduction fiscale.
Retour de l'information à 12h30 avec Éric Leclerc.
Radio Présence à Moissac, 93.3.
Et comme tous les jeudis, nous nous intéressons à l'actualité du diocèse de Pau, Bayonne, Lescar et Oloron. C'est avec Gilles Galbardi et son invité Nathalie Chambon.
L'agenda du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron, c'est toutes les semaines sur Radio Présence. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Chambon. Bonjour Nathalie.
Bonjour Gilles.
Vous êtes la responsable de la communication pour le diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron. Début de cet agenda avec le Secours catholique qui organise ce week-end sa braderie solidaire. C'est à quelques kilomètres de Pau, du côté de Morlas.
Oui, tout à fait. Donc c'est vendredi 11 septembre de 10h à 17h et mêmes horaires pour samedi 12 septembre au 22 rue des Cordeliers à Morlas. C'est effectivement plus qu'une simple vente, hein, cette braderie solidaire, c'est vraiment un acte concret de partage, de soutien à l'économie circulaire et à l'entraide locale. Donc toute l'équipe locale du Secours catholique de Morlas vous attend ce vendredi et ce samedi 12 septembre.
On poursuit avec deux messes d'installation qui sont programmées à Monin et Jurançon.
Tout à fait. Donc samedi 12 à 18h à Monin, Monseigneur Hayet viendra installer le nouveau curé des paroisses Saint-Vincent des Bayes, Monin et Saint-Michel-des-Coteaux, Artigues-Louves. C'est donc l'abbé Béranger Mabunda qui arrive comme curé. Donc nous vous invitons à vous joindre à sa messe d'installation donc à 18h le samedi 12. Et ensuite, le dimanche 13, c'est l'installation de l'abbé Vianney Arnaud comme curé de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance à Jurançon. Messe d'installation à 17h, donc en l'église Sainte-Marie de Jurançon, présidée également, bien sûr, par notre évêque, Monseigneur Hayet.
On poursuit cet agenda du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron avec l'adoration communautaire. C'est à Sainte-Thérèse à Pau. Le programme 2026-2027 s'articule autour de plusieurs temps forts.
Oui, tout à fait. Donc, je vous rappelle, c'est un thème par jeudi, un jeudi par mois. Adoration de 18h à 19h, suivi de la messe. Et donc, vous avez un enseignement qui est proposé ce jeudi. Ce sera le père Sylvain Dansou, hein, qui vous proposera un enseignement et autour du groupe aussi également. Réjouissez-vous pour animer ce temps de prière communautaire d'adoration devant le Saint-Sacrement.
On poursuit avec la présentation du parcours Zaché. C'est proposé par la formation permanente du Béarn à Pau.
Tout à fait. Donc, je vous en avais déjà parlé. Il y a ce jeudi 17 septembre de 20h30 à 22h, première soirée de présentation. Et il y en a une deuxième le mardi 22 septembre, mêmes horaires, hein, 20h30, 22h. C'est à la maison Saint-François-Xavier, rue Montpensier à Pau, rue Montpensier, pardon. Et ce parcours hein, Zaché vise vraiment à mieux nous faire comprendre comment la doctrine sociale de l'Église nous permet de vivre notre foi dans notre quotidien. C'est une proposition de formation aussi en soutien avec la communauté de l'Emmanuel.
La 8e édition du Festival du cinéma chrétien de Bayonne se déroulera à partir du mercredi 16 septembre. C'est du 16 au 22 septembre, CGR de Bayonne.
Oui, tout à fait. Hein. Donc, ce beau festival de cinéma avec un film par soir. Cette année, le thème, c'est vraiment axé sur la paix. Fraternité et la paix, des débats qui sont proposés. Toutes les infos sur le site du diocèse, mais également sur le site festivalcinémachrétien.com. Venez soutenir cette belle initiative.
Voilà, Festival du cinéma chrétien de Bayonne du 16 donc au 22. On poursuit avec la communauté Vie chrétienne qui organise une soirée open à Pau.
Tout à fait. Venez découvrir hein, donc ce qu'est la communauté de Vie chrétienne à Pau avec un thème « Donne du goût à ta vie hein, ». Comment partager en équipe pour trouver Dieu dans son quotidien. Présentation de la soirée, c'est à l'église Sainte-Bernadette à Pau. Donc vendredi à 18 septembre, pardon, à 20h.
Et enfin, on termine cet agenda avec l'incontournable pèlerinage diocésain à Lourdes. Votre pèlerinage, c'est alors pas ce week-end, c'est le week-end du 19 et 20 septembre.
Oui, il est encore possible hein, de s'inscrire. Les infos sur le site diocèse64.org. Trois jours de pèlerinage autour de notre évêque et en lien avec bien sûr l'hospitalité basco-béarnaise. Temps fort de ce pèlerinage, notamment le dimanche 20 septembre, avec la messe donc qui est présidée par Monseigneur Hayet à 10h. Et ensuite, je crois que c'est à 15h30 les vêpres. N'hésitez pas à vous inscrire. Il y a des bus qui partent du Pays Basque, mais qui font étape à Orsès et à Pau. Toutes les informations sur le site du diocèse.
Voilà, pèlerinage donc basco-béarnais à Lourdes, 19 et 20 septembre. Évidemment, on encourage les auditeurs qui nous écoutent dans le Béarn à venir à Lourdes, mais pour ceux qui ne pourront pas se rendre à Lourdes, eh bien, dans le Béarn, ils pourront suivre en direct sur Radio Présence la messe du dimanche 20 septembre à 10h.
Oui, tout à fait. Et je crois également que la messe à la grotte le lundi sera retransmise sur Radio Présence Toulouse.
Exactement. Voilà pour ce pèlerinage donc du diocèse de Bayonne-Lescar et Oloron à Lourdes, 19 et 20 septembre. C'est là-dessus qu'on referme cet agenda. Nathalie Chambon, un grand merci. Excellente fin de semaine à Bayonne et on se dit à la semaine prochaine.
Merci Gilles, à vous aussi, à la semaine prochaine. Au revoir.
Et Nathalie Chambon était au micro de Gilles Galbardi.
Radio Présence à Ax-les-Thermes, 92.7.
Allez, je vous propose de partir à Éas, un petit lieu-dit. Si on prend la route du cirque de Troumouse, c'est sur la route du cirque de Gavarnie. Ne pas confondre les deux, c'est à gauche. Et là, nous allons découvrir deux nouveaux tableaux qui ornent une très très belle chapelle qui est située sur ce lieu-dit. Un reportage signé Anne-Rose Jankovic.
Philippe Pujot, c'est vous qui avez peint ces deux tableaux qui ont été mis en place, inaugurés, bénis aujourd'hui dans cette chapelle Notre-Dame d'Éas. Et je vais vous laisser tout simplement la parole à vous qui êtes l'artiste pour nous décrire chacun de ces deux panneaux qui, voilà, qui se répondent en quelque sorte.
Oui, bonjour, absolument. Alors, tout d'abord, les deux panneaux se répondent. La commande est venue de l'abbé Martin qui a signalé au père Duard cette demande, qui est venue me chercher tout naturellement puisqu'on a collaboré plusieurs fois sur d'autres projets. C'est évidemment un projet qui m'intéressait par plusieurs dimensions. D'abord par le fait que je sois un montagnard et très sensible au fait d'avoir des chapelles comme ça dans nos montagnes.
Vous êtes de la vallée de Campan, c'est ça ?
C'est ça, moi je suis originaire de la vallée de Campan. Mon grand-père avait là-bas beaucoup de moutons, donc j'ai passé mon temps à faire les foins l'été et à m'occuper des moutons en estive, l'hiver à nourrir. On passait toutes nos vacances à s'occuper du troupeau familial, donc c'était vraiment intéressant.
Donc ça fait partie, pardon, on fait une parenthèse déjà, ça fait partie de votre inspiration pour aujourd'hui être peintre ?
Ça fait toujours partie de mon inspiration. Le côté, j'allais dire presque symbolique et mythologique du métier de berger, la manière de soigner, la manière de repérer, la manière de donner du sel, la manière de faire venir un agneau à soi pour le nourrir quand sa mère le rejette parce que c'est le premier agneau. J'ai suivi mon père et j'ai arpenté les chemins silencieusement en me mettant à son pas. Tout ça, ça a nourri aujourd'hui ma réflexion sur la vie en général et sur la peinture en particulier. Et ça me traverse, ça me suit, je ne peux que le constater.
Voilà. Alors, ça se voit aussi dans ces panneaux que les auditeurs pourront venir découvrir dans cette chapelle Notre-Dame-des-Asses. Ce sont vraiment des panneaux qui respirent, des tableaux qui respirent la Bigorre. L'un présente le bienheureux Pascal Vergès, l'autre Sainte Bernadette. Peut-être que vous pouvez nous parler de la manière dont vous avez travaillé, les couleurs, les lueurs.
Oui, alors avant tout, j'ai travaillé en étroite collaboration avec Pascal Castillo, la présidente de la commission d'art sacré du diocèse, avec l'abbé Martin et avec l'abbé Duard. Et de concert, nous avons décidé très exactement de la symbolique qu'il souhaitait donner sur les panneaux pour respecter une forme de liturgie très serrée, très, très intéressante. Alors dans le premier panneau, par exemple, il fallait montrer Pascal Vergès dans sa détermination, aller comme ça dans un élan de vie, mais où on voyait son destin poindre à l'horizon. Donc on a la Vierge d'Éas là, qui est entourée d'une couronne d'épines, mais si on regarde bien, il y a des fils barbelés qui s'y entremêlent. Et sur ce pont qu'il traverse, qui est le pont qui se trouve à deux pas de la chapelle, un petit peu plus loin, dont je reviens, j'étais avec mon compagne pour lui montrer le pont, vous voyez une petite ronce, alors là on ne la voit pas parce que ça brille, mais qui est en train de monter, comme les mauvais augures. Alors moi j'ai souhaité dans cette composition donner beaucoup de place, et dans les deux compositions, donner beaucoup de place à l'entourage du personnage. Oui. Le personnage il prend une place, mais le pont est quasiment un personnage en lui-même, tout comme dans le panneau de Bernadette, le troupeau est un personnage en lui-même.
Alors, sur la personne du bienheureux Pascal Vergès, on est impressionné quand même par sa carrure. On parlait de montagne, c'est vraiment une carrure de montagnard. Peut-être certains diraient de rugbyman, mais vraiment c'est une carrure de montagnard. On sent l'homme de la montagne.
Oui, c'est ça, c'est l'homme de la montagne, tout comme l'abbé Peyramale qui est décrit, qui aide les paroissiens à faire le bois, qui passe son temps à avoir une vie physique. Hein. Les hommes d'église ne sont pas forcément des intellectuels enfermés dans une bibliothèque sombre, ce sont des gens qui vivent leur foi à l'extérieur, et donc dans la montagne, parce que Vergès est décrit, puis les images que j'en ai vues, les images que j'ai travaillées de lui montraient un personnage tout en retenue, mais avec une force physique impressionnante. Il est dans la force de son âge, c'est-à-dire il y a 50 ou 100 ans, à 30 ans, on avait 45 ans de physique, quoi. Moi, je me rappelle du physique de mes grands-parents, arrière-grands-parents, et donc je l'ai voulu conçu comme ça, comme un homme dans la force de l'âge et dans la force de sa pensée. Alors derrière lui, nous voyons la cascade des As, source du Gave, qui vient couler dans ce ruisseau comme une source, un destin. Et le pont, ce que je disais, c'est... Bon, le pont, c'est le passage, évidemment. C'est les multiples passages symboliques, celui que le spectateur franchit quand il regarde et quand il rentre dans sa foi. Et également, chaque pierre qui constitue ce pont, eh bien, c'est nous. C'est nous, c'est la partie, disons... culturelle, la partie construction de nous-mêmes. Moi, je l'ai vu comme ça. L'abbé Martin m'a amené voir le pont tout de suite. J'en suis tombé amoureux. Tout de suite, j'ai dit...
Il avait sa place dans ce tableau.
Ah oui, le pont, c'est le pont des hommes, le pont reconstruit, pierre par pierre, avec un ciment qui nous lie. Et ce ciment qui nous lie, c'est de vivre ensemble.
Et finalement, sur ce tableau, donc, si chaque pierre de ce pont, c'est un peu chacun de nous, on a l'impression, du coup, que c'est nous qui supportons, qui portons, en tous les cas, la mémoire du bienheureux Pascal Vergès. Et en même temps, lui se penche vers le pont, vers les pierres, vers l'eau qui ruisselle, avec peut-être bonté, bienveillance.
Alors, moi, je m'interroge beaucoup quand je fais des tableaux, avant, pendant et après. Et je sais que je fais confiance à... disons mon intuition quand je vais faire la composition pour regarder ce qui va fonctionner. J'avais la volonté de mettre ce point en avant parce que j'ai compris qu'il était très important. Et je me suis dit, effectivement, dans ces cas-là, est-ce qu'il nous domine? Et je ne pense pas qu'il nous domine. En réalité, le prêtre, son rôle pour accompagner les croyants, c'est de les représenter. Mmh. Et donc, il prend un rôle déterminé de se mettre au-dessus en disant, regardez, je ne me mets pas sur ce tas, qui êtes-vous pour m'appuyer sur vous et faire mon chemin à moi? Je me mets là parce que c'est moi qui fais le liant. Quand vous êtes fatigué, c'est moi qui vais dire, il faut remplacer une pierre, il faut la remettre, il faut la rechausser, etc. Et donc c'est un travail collaboratif entre celui qui est l'esprit de la foi et les gens qui, dans leur quotidien, n'ont pas le temps de penser la foi tout le temps.
Au fond, c'est ce que Pascal Vergès a fait en camp de concentration, là où il est mort. Il a supporté jusqu'au bout ses camarades d'infortune.
C'est ça, même quand il n'était plus avec eux dans une paroisse et dans une période de joie, il était quand même un compagnon de mauvais jours et il portait son idée poétiquement, j'allais dire, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin qu'ils soient là, eux. Lui, il construit la foi parce que tout d'un coup, il l'incarne. Mmh. Et donc, lui-même est une forme de pierre de ce pont. Mais voilà, il y a ce passage... et le fait que toutes ces pierres liées soient l'ensemble de ce que forment les gens de bien.
C'est quand même dire que cette Bigorre mariale, elle était dans le cœur de tous les fidèles à l'époque. Et d'ailleurs, on constate, vu le monde qu'il y avait aujourd'hui, que c'est toujours un peu le cas quand même.
Oui, bien sûr. Ben, l'église était pleine, c'est très émouvant. Ouais. On voit les gens en joie qui restent pour manger, pour boire. Ça s'affaire encore dedans. Enfin, je trouve ça très réjouissant. Moi, avec ma compagne, c'est toujours des moments très émouvants. On vit des choses extraordinaires, puis le lieu est fabuleux.
Alors, la dernière chose avant de passer sur le tableau suivant, dans l'autre chapelle latérale, c'est la colombe, évidemment, puisque les colombes sont liées à l'histoire des As, et il y a deux colombes, ça tombe bien, puisqu'il y a deux panneaux.
C'est ça, exactement. Là encore, j'ai suivi les instructions précises du père Martin, qui est vraiment très précis dans ce qu'il aime, et vous voyez, dans le cœur, ces deux colombes ont été installées également. Oui. Alors moi, c'est... évidemment une réjouissance puisqu'elles rejoignent aussi le paraclette que j'ai fait dans le polyptyque de l'abside du cœur à l'église paroissiale de Lourdes. Et c'est un symbole que j'aime énormément travailler puisque lui-même est plein d'élan et amène une vitalité au tableau.
Et donc la vie de Pascal Vergès a eu, évidemment, s'est terminée en heure sombre de l'histoire, mais ce tableau, il est lumineux.
Oui, bien sûr. Ce n'est pas nous qui décidons des heures sombres ou des heures claires. Nous ne pouvons que nous déterminer à faire le mieux que nous pouvons dans le temps qui nous est imparti. Et ensuite, on subit les époques et on tire le meilleur de chaque situation.
Alors, merci pour la présentation de ce premier tableau. Si vous voulez bien, on va passer au deuxième tableau qui présente Sainte Bernadette.
Encore une fois, on voit Bernadette devant un paysage de montagne que j'ai voulu presque diaphane, presque avec des couleurs de Toscane vers la hauteur pour montrer une forme, pas de mélancolie, mais d'apaisement. Au moment où Bernadette monte à Bartrès, donc c'est un tableau qui est anachronique, qui est symbolique, puisque vous voyez qu'on lui a mis une auréole. Mmh. Mais à ce moment-là, moi j'ai voulu la représenter, ils n'ont pas d'argent, elle mange très peu, son frère est pris dans l'église en train de manger de la cire, elle est émaciée, elle a des problèmes pulmonaires, on lui dit faut que tu montes pour respirer et tu vas garder un troupeau de moutons. Alors moi, dans ma mythologie personnelle, c'est extrêmement important, symbolique, c'est très beau. Et donc ici, les moutons sont le pont. C'est-à-dire, ils sont eux-mêmes un personnage, c'est le troupeau, c'est chacun de nous et c'est la partie... C'est la partie organique, la partie... vous savez, il y a deux cultures, la culture de la terre et la culture de la pierre. J'ai fonctionné de la même manière au polyptyque là-bas, puisque j'ai fait des tailleurs de pierre d'un côté, les gens qui travaillent la pierre et donc notre culture intellectuelle, et les gens qui travaillent le sol et qui sont là pour nous nourrir. Et donc j'ai voulu représenter de la même manière ces deux symboles, avec l'autorisation évidemment de Pascal Castillo, du Père Martin et de l'abbé Duhart. Et donc ce troupeau que vous remarquez, ce sont des brebis barégeoises évidemment, vient entourer Bernadette. Bernadette touche ce mouton que l'on pourrait prendre pour l'agneau. Donc Jésus est au loin, vous pouvez voir en tout petit, si vous faites très attention, et j'ai fait en sorte qu'on voit les trois sanctuaires de Bétharam, de Lourdes et de...
Et le regard est porté très loin, puisqu'on se dit, en fait, il y a des montagnes à perte de vue, à l'infini. Alors il y a des sapins, puis après, vraiment, on a l'impression que les montagnes ne finiront jamais.
C'est ça, ce sont des montagnes métaphoriques. Elles ne représentent pas un paysage réel, alors que dans l'autre panneau, on est dans un paysage quand même où j'ai fait la cascade. Il y a la chapelle des As.
Là, on risque pas de reconnaître le pic du Midi, le Montaigu, la Brèche de Roland.
Non, je voulais pas faire ça. Je voulais pas aller à Bartrès prendre une photo. Je voulais vraiment un paysage qui ancre Bernadette, du fait qu'elle est aussi l'auréole, dans un paysage métaphysique, un paysage allégorique.
Et pourquoi ça c'est important? Pour laisser à chaque personne qui regarde son interprétation? Pourquoi ça compte pour vous?
À partir du moment où on peint Bernadette, et où on peint par exemple le Père Vergès ou d'autres personnages que vous représentez, Saint-François de Sales, Saint-Jean de Chantal, ce n'est pas la personne qu'on a connue qu'on représente. Si je représentais une photo très exacte que j'avais fait, je figerais une seule image de la personne. Or, une personne n'est pas entièrement dans une seule de ces images. Et donc, quand je la représente, je représente une vision imaginaire d'elle. Et cette vision imaginaire doit être à la fois très proche pour que les gens puissent se fondre dans leur émotion plutôt que se dire « c'est mal fait ». Mais en même temps, elle doit être suffisamment ouverte pour que chacun passe dans son imaginaire. Quand on commence un roman, on imagine la voix d'un personnage et on a beau nous dire il a la voix rock, si on l'a imaginé aiguë, on la gardera aiguë jusqu'à la fin du roman. Et c'est notre personnage, il faut que ce soit notre Bernadette, il faut que ce soit notre Pascal Vergès. Il faut que nous fassions la moitié du chemin. Donc moi je l'ai fait de la manière la plus respectueuse. Elle me rappelle ma sœur quand elle avait 16 ans et qu'elle était... ma sœur, moi je la trouvais magnifique, elle était belle, elle était tout ce que j'aimais de rassurant dans ma vie. Et donc, je lui ai trouvé un point commun dans cette chevelure noire, cette attitude vraiment sans excès, jamais. Toujours dans la modération et dans la tempérance.
Avec rien, si ce n'est le chapelet qui prend quand même une place importante.
Évidemment. Évidemment, puisque Bernadette est très croyante, on est sur une scène religieuse, il faut que métaphoriquement, allégoriquement, ça le représente, mais il faut que littéralement, on voit des signes de cette magie, en quelque sorte, qui vient s'opérer.
Quand vous avez eu cette commande de ces deux tableaux, donc par l'association Le Toit du Cœur, qui a financé ces œuvres, comment vous avez commencé votre travail? D'abord, est-ce que vous connaissiez la chapelle des As? Est-ce que l'environnement, le décor qui est déjà là de cette chapelle, il compte aussi? Il faut que ces deux tableaux racontent quelque chose pour aujourd'hui en tenant compte de ce qui est là depuis toujours?
C'est ça. Alors là, il y a un double défi. Alors d'abord, comment je fais? Moi, la genèse d'un projet, c'est je viens dans le lieu. Je passe du temps dans le lieu. Ouais, je passe du temps dans le lieu, je passe du temps autour du lieu. Et d'ailleurs, ici, je suis tombé amoureux du lieu. J'ai dit à ma femme, je l'ai amené tout à l'heure, ma compagne, j'ai dit, on va revenir avec les enfants, on va passer des nuits ici, on va être dans le cirque, mettre les pieds dans la rivière. C'est un lieu magique. Donc moi, d'abord, je m'imprègne. Le double défi, c'était ici que tout va être restauré. Donc je ne pouvais pas me fier à commencer, mais à comment je dois imaginer que ce soit, alors qu'on ne m'a pas dit comment ça serait. On m'a dit, on va rafraîchir tout, les murs, etc. On va redonner un air vivifié. Or ici, il y a des tableaux très ternes, par l'usure du temps, et des vitraux très vifs. Et donc il fallait trouver un moyen terme. Il fallait que je m'accorde avec la commission d'art sacré, qui a un œil plus précis de ce qu'ils veulent, comme Pascal Castillo, qui m'a dit non, il faut que les couleurs respectent ça. Et vraiment, c'est travailler de concert. Donc on me dit, on me dit voilà les teintes à peu près dans lesquelles on veut que ce soit pour respecter le lieu dans ce qu'il va être, parce qu'il faut quand même une harmonie d'ensemble, même si moi je vais toujours tirer vers la modernité, c'est mon rôle, pour que les tableaux...
Finalement ces tableaux sont encore une fois le pont, pour reprendre...
Absolument, c'est un pont entre le passé et le futur, oui, et il faut toujours tirer plutôt vers le futur. Les idées du passé, elles sont déjà dedans, en tout cas les idées intemporelles, elles sont déjà dedans, et il faut tirer le spectateur vers des images à la fois classiques mais à la fois nouvelles. En tout cas, c'est ce que je pense.
Merci beaucoup pour ces explications. À bientôt pour peut-être découvrir d'autres œuvres, puisque entre l'église paroissiale de Lourdes aujourd'hui et As, on voit que vous mettez vraiment votre talent d'artiste, de peintre au service aussi de la piété populaire mariale qui existe dans le diocèse de Tarbes et Lourdes.
En tout cas, j'y mets mon cœur. Je suis un enfant du pays et c'est vrai que je ne boude pas de mon plaisir quand je reçois une commande ici. J'espère en obtenir d'autres, puisque c'est vraiment un travail dans lequel je me délecte. Je me plonge dans les textes et ensuite j'avance.
Merci.
Merci à vous.
Un reportage signé Anne-Rose Jankovic en compagnie donc de Philippe. C'était Philippe Pugeot. Voilà. On se retrouve dans quelques instants pour les informations de la mi-journée en compagnie de Éric Leclerc.
De Neuchâtel aux Philippines, fut en flanelle sur Moleskine, de grand hôtel en limousine, polichinelle voyage en Chine, t'as du nickel, j'ai des usines, t'as du platine mais pas de bretelles, ton archipel pour ma turbine, tu pousses ton fou, je te prends ton roi, toi t'as Cuba, moi ton Bouctou, tu prends le Pérou, moi l'Angola. Truc et ficelle, troc et combine, d'Aix-la-Chapelle à Constantine, du grand cocktail où l'on badine, à la demoiselle très très câline, qu'à des roussels à trois vitrines, des caravelles et de l'aspirine, t'as des cervelles qui t'enquiquinent, tu démantèles, moi j'endoctrine, et si je recule mon cavalier, tu prends mon pion mais moi ta tour, si je te laisse faire à Singapour, ça fait rentrer 1000 tonnes d'acier. Truc et ficelle, troc et combine, de Compostelle à Tien-Sin-Sin, de grand cartel en saccharine, de clientèle en cocaïne, fais mes usines en Israël, t'as des diesels mais pas de benzine, j'ai de la farine, t'as pas de cheptel, de colonel pour ta ballerine, tu pousses ton fou, je te prends ton roi, t'as Panama pour faire joujou, touche au Pacou, je prends l'Ouganda, truc et ficelle, troc et combine, de Neuchâtel aux Philippines, fut en flanelle sur Moleskine, de grand hôtel en limousine, Papa Noël en Palestine, t'as de la Javel, j'ai pas de piscine, t'as des rebelles qui se mutinent, un caramel, une carabine, et si j'avance un peu ma reine, te v'la bloquer sur les deux cases, un incident près du Caucase, échec et mat à moi le Yémen, truc et ficelle, troc et combine, truc et ficelle, troc et combine.
Présence dans la cité mariale 96.
Bonjour, Loft Orbital, une société mondiale d'infrastructures spatiales basée à Toulouse, et Marlin Space, un investisseur et filiale d'HIC basée aux Émirats Arabes Unis, ont annoncé hier un programme d'1 milliard d'euros pour construire la plus grande infrastructure de satellites d'intelligence artificielle au monde. Le plan a été annoncé lors du sommet spatial international à Paris. Cela finance le saut d'une démonstration éprouvée de 10 satellites à une flotte de 50 satellites. Les satellites transporteront des capteurs radar, optique et autres. Ils sont construits pour servir les utilisateurs gouvernementaux en France, en Europe et aux Émirats Arabes Unis, aux côtés d'une base mondiale de clients commerciaux. Bonne nouvelle pour la biodiversité montagnarde. Le grand tétras et le lagopède alpin sont désormais officiellement protégés en France. Ces deux oiseaux emblématiques sont en danger. Le grand tétras a perdu près de 80% de sa population dans les Pyrénées depuis 1960, tandis que le lagopède rescapé de l'ère glaciaire voit son habitat grignoté chaque année par le changement climatique. Information pratique, dans le cadre de l'entretien du réseau routier national, la direction interdépartementale des routes massives centrales va procéder à des travaux de réfection de la chaussée de l'autoroute A75. Cette opération se déroulera du lundi 14 septembre au vendredi 2 octobre sur le territoire des communes de Verrières, Aguessac et Millau. Lancement de la campagne de dons citoyens doublée par 1% for the planet, portée par Bouge ton coq, pour accélérer l'ouverture de nouvelles épiceries participatives dans les communes rurales d'Occitanie. Depuis 2020, Bouge ton coq accompagne les villages de la région confrontés à la disparition des services essentiels. Son modèle d'épicerie participative sans marge, fondé sur les circuits courts et animé par les habitants, permet de relocaliser l'alimentation, de réduire les déplacements du quotidien et de soutenir durablement les producteurs locaux. Elle joue également un rôle majeur dans la revitalisation sociale des villages. Chaque épicerie mobilise en moyenne 70 bénévoles, travaille avec 15 à 20 producteurs et devient un lieu de vie. En Occitanie, 28 épiceries participatives sont déjà ouvertes et 4 verront le jour jusqu'à la fin de l'année. Parmi elles, à Asprières en Aveyron et Bourg dans les Hautes-Pyrénées, la campagne de dons est ouverte jusqu'au 7 octobre et ouvre droit à une réduction fiscale. La nouvelle saison culturelle du Théâtre de Cahors et de l'Auditorium s'ouvre sous le signe de l'émerveillement, de la diversité et du partage. Entre comédies engagées, grands rendez-vous musicaux, danse, cirque et spectacles à partager en famille, cette édition 2026-2027 promet une programmation captivante et accessible à tous. La saison s'ouvrira le 6 octobre avec Made in France, comédie récompensée du Molière 2026 de la mise en scène. Ancrée dans l'histoire de Montauban, la fête des 400 coups revient du 11 au 13 septembre. Cette fête transforme chaque année le cœur historique de la ville en un vaste décor vivant où l'histoire rencontre le spectacle. Plusieurs jours placés sous le signe de la fête, de la culture et de la convivialité, accessible à tous. Elle a lieu du 11 au 13 septembre.
Merci Éric Leclerc, on vous retrouve au cours de la journée pour la suite de ces informations. La suite en tout cas de ce Présence Midi, ce sera avec Anne Lasserre qui nous parlera du bon Didier. On en saura un petit peu plus dans un quart d'heure au cours duquel nous allons retrouver Anne-Rose Jankovic. Elle est en compagnie de Sébastien Mézounave. Sébastien Mézounave, il est le responsable du département de la direction des sites du sanctuaire de Lourdes et ils vont nous parler dès maintenant des coulisses de l'organisation de la venue du pape à Lourdes.
Bonjour Sébastien Mézounave.
Bonjour Anne-Rose.
Vous êtes responsable du département direction des sites au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, c'est-à-dire que vous avez en charge toutes les questions techniques et sécurité de ce sanctuaire qui s'apprête à recevoir sa sainteté le pape Léon XIV. Dans quelques jours, vous allez nous raconter un petit peu comment ça se passe dans les coulisses, puisque vous avez le nez dedans. 150 000 pèlerins sont attendus pour cet événement. Rien que pour la journée du dimanche, on parle de 1200 bus. C'est du jamais vu, Sébastien Mézounave ?
Alors, c'est peut-être pas du jamais vu, parce que Lourdes a déjà accueilli des papes. Donc, il y a quand même cette expérience-là, mais c'est vrai qu'on a un engouement autour de la visite de Léon XIV en France qui... dépasse nos espérances et tant mieux, parce que ça va être un jour et deux soirées de grande joie d'accueillir le Saint-Père avec effectivement une foule colossale, avec des moyens techniques et logistiques qui devront être à la hauteur de cet événement, tant en termes de transport qu'en termes d'accueil, qu'en termes de célébration, qu'en termes de liturgie.
Ceux que vous côtoyez, qui travaillent avec vous et qui ont déjà vécu l'avenue de Benoît XVI et puis avant celle de Jean-Paul II, disent qu'il y a un engouement qui est différent, que les choses ont changé. Fondamentalement, qu'est-ce qui a changé ?
Alors, qu'est-ce qui a changé ? Moi, pour avoir vécu 2008, le gros changement pour moi, il est surtout sur des questions de sécurité. Effectivement, la France, depuis, a traversé des épisodes noirs, à travers Nice, le Bataclan et autres, qui font qu'aujourd'hui, l'État a des enjeux de sécurité beaucoup plus importants.
Ça veut dire des consignes pour vous, des contraintes sont imposées par l'État ?
Complètement des contraintes, puisque nous devons mettre en place des dispositifs de contrôle de type portique. Alors, ce n'est pas des portiques d'aéroport, on ne va pas arriver au sanctuaire et devoir défaire son sac à dos ou autre. C'est des portiques qui sont faits pour des grands flux, donc ça veut dire qu'on va pouvoir passer avec son sac à dos, mais il y a une liste d'objets interdits qu'on ne pourra pas mettre en place. Il y aura des dispositifs de palpation pour notamment les personnes en situation de handicap, pour pouvoir les accueillir. Et tout ça, ça nécessite des moyens techniques, c'est des moyens humains, ce sont des coûts également, et puis c'est toute une organisation pour que le temps d'attente soit le plus court pour les pèlerins. que pour eux ce soit le plus transparent possible.
C'est quoi la priorité pour vous dans ce département que vous pilotez avec les équipes que vous avez? Quelle est votre priorité au quotidien depuis que vous savez que vous avez la confirmation que le pape vient?
Alors la priorité, elle est surtout technique, puisque en fait ce sont la mise en place de tous les moyens nécessaires. Alors ce sont des barrières, ce sont des podiums. Là, on est en train de construire, alors même où on parle, le très grand podium qui va accueillir la messe avec le pape Léon XIV.
Et ce sont les équipes du sanctuaire de Lourdes qui...
Alors
qui
non, ce sont les équipes du sanctuaire de Lourdes qui construisent la réflexion, qui font les plans, mais ensuite là, on fait appel à des équipes de sous-traitance parce que nous n'avons pas les moyens pour concevoir ça.
Et il va être comment, pardon, mais ce podium, moi ça m'intéresse, comment il va être, quelle dimension? Alors, on peut savoir ça déjà?
Il
ou c'est...
a une des dimensions, il fait plus de 40 mètres de long, il fait une quinzaine de mètres de profondeur, il fait 14 mètres de haut, il va être capable d'accueillir au-delà du Saint-Père et de sa suite 400 évêques, archevêques et cardinaux. Oui. Donc oui, c'est un bâtiment que l'on construit pratiquement pour ça, avec une chorale juste à côté qui, elle, va accueillir 180 choristes et musiciens. Donc oui, ce sont des installations qui sont colossales. Et puis, à côté de ça, il y a également des installations de son, d'image, notamment nécessaires dans le cadre d'accueil aussi des personnes en fragilité, puisqu'il y a un gros dispositif pour l'accueil des personnes en situation de handicap.
Et oui, parce que c'est quand même la priorité au sanctuaire de Lourdes.
Oui, c'est l'ADN du sanctuaire de Lourdes et je pense que dans le cadre des visites papales, les moyens que l'on met en place pour cette édition à Lourdes, ce sont des moyens qui sont uniques et qu'à mon avis, le Saint-Père, lui comme son prédécesseur, n'ont jamais eu ailleurs. On va vraiment faire en sorte de pouvoir accueillir toute personne avec toute leur fragilité.
Donc des dispositifs absolument exceptionnels, mais il y a quand même ça qui ne change pas et qui reste toujours la priorité, c'est le respect de cet ADN, comme vous dites, du sanctuaire de Lourdes, c'est la priorité et la place au premier rang pour les personnes malades ou à mobilité réduite.
Oui, pour les plus petits, pour les plus fragiles, et en fait, il ne faut pas qu'à un moment donné, la personne se retrouve en situation de handicap parce qu'elle ne peut pas accéder, parce qu'elle ne peut pas entendre, parce qu'elle ne peut pas voir, parce qu'elle a des difficultés cognitives. Et nous mettons en place, avec notamment Sébastien Bousquet, qui travaille étroitement sur ça, en lien également avec l'OCH, en lien également avec les accueils de malades, et bien on essaye de faire cette dentelle pour accueillir ces pèlerins.
Ça veut dire que rien que pour le temps de l'accueil, on a bien compris qu'il faut que les pèlerins prévoient d'arriver déjà le dimanche matin, ce flux de pèlerins qui va passer par les portiques, il y a quand même un accueil spécifique à côté pour les personnes qui sont peut-être en fauteuil ou...
Effectivement, alors on aura l'accueil pour tous, c'est-à-dire que chaque personne qui sera titulaire d'un titre d'inscription à la célébration se verra affecter un placement dans ce qu'on appelle un box, un carré, certains disent même une bergerie, vous voyez.
Clin d'œil à Sainte-Bernadette.
Exactement, et donc ils seront accompagnés par des bénévoles jusque dans leur box. Mais pour les personnes en situation de handicap, et encore une fois, quel que soit leur handicap, on leur mettra en plus des moyens spécifiques. Je pense notamment au sous-titrage en langue des signes qui se fera en direct avec des traducteurs en langue des signes qui seront sur place. Je pense également à des dispositifs d'audio-description qui seront possibles pour toutes les personnes qui se signaleront. Donc j'invite nos auditeurs à se signaler pour dire j'ai un besoin et est-ce que vous pouvez y répondre? Et j'espère qu'on saura y répondre.
Alors derrière, on a bien compris que en fait derrière toute la technique qu'il faut mettre en place, en fait la priorité c'est quand même l'accueil du Saint-Père et du pèlerin, quel qu'il soit.
Toujours, mais je crois qu'au sanctuaire, de toute façon, on a tous cette même mission, c'est d'accueillir le pèlerin pour l'accompagner à la grotte et lui faire rencontrer la Sainte Vierge Marie, comme l'a fait Bernadette. Après, on a chacun nos spécificités, et nous, c'est sur la partie technique et sécurité.
Il y a assez de bénévoles pour vous aider? Vous parliez de bénévoles pour accompagner chaque pèlerin ou chaque groupe de pèlerins dans son carré. Combien de personnes sont mobilisées? Combien de bénévoles sont mobilisés auprès de vous?
On sera sur plusieurs milliers, je n'ai pas les chiffres avec moi, mais rien que pour vous donner un ordre d'idée, l'accompagnement dans les box pour placer les pèlerins lors de la messe du dimanche, c'est 250 bénévoles. Rien que pour ce placement, c'est derrière un bénévole qui sera dans chaque box pour 100 pèlerins présents pour la quête, pour la communion. Donc, vous voyez que vous, si vous imaginez 100 000 personnes à la messe, mais il vous faut 1000 bénévoles rien que pour ça à ce moment-là. Oui. Donc oui, on a un dispositif bénévole qui est colossal et qu'il faut organiser.
Et organiser, répéter. Enfin, vous, les bénévoles, ils viennent d'un peu partout, on imagine.
Et au dernier moment.
Voilà, c'est
ils
ça.
Ils viennent d'un peu partout.
Ils vont pas venir pour
moment.
Faire une répétition générale.
Non, non. Donc on fait cette répétition, mais sans eux, on écrit nos scénarios, on écrit nos fiches et on espère leur transmettre ça de la façon la plus facile, le plus en amont, peut-être quelques jours avant par mail ou tout au plus quelques heures avant sur site.
En dehors de la messe, évidemment, c'est quand même un temps très important, très attendu, le point d'orgue certainement, en tous les cas, peut-être le moment où il y aura le plus de monde dans le sanctuaire pour cette messe donc célébrée à 11h par le pape dans la prairie du sanctuaire. Avant, après, les pèlerins, ils vont bouger. Derrière, il y a cette question de gestion des flux, pour reprendre un terme un peu technique.
Oui.
Comment ça se passe là de ce côté-là ?
Il y a plusieurs séquences, et vous avez parlé effectivement de la messe du dimanche matin, mais il y a aussi la séquence d'arrivée du samedi soir, il y a aussi la procession mariale du dimanche soir, pour laquelle, pour la première fois, un pape fera lui-même la procession. Ça n'est jamais vu, ça, encore.
Oui, d'habitude, le pape ne bouge pas et les pèlerins, les pèlerins font le chemin habituel.
Et là, aujourd'hui, ça va être l'inverse.
Ouais.
Enfin, aujourd'hui, le 27 septembre. Et entre ces séquences-là, il y a tout un programme d'animation qui est en train de se construire. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il n'y aura un temps mort. Et ça, dès le samedi après-midi. C'est-à-dire que dès le samedi après-midi, les fidèles qui seront présents sur place pourront assister à des chants, à des projections sur les écrans, à des informations aussi qui leur seront données. Mais voilà, pour faciliter leur temps d'attente avec, je dirais, en point d'orgue des derniers instants des séquences, des temps d'adoration et des temps de prière.
Alors, on a donc parlé du podium, des aspects techniques, logistiques aussi. Alors, il y a plein d'autres questions qui se posent. On a beaucoup parlé sur Radio Présence parce que la question a été beaucoup posée de la question du fameux siège pliant. Alors maintenant, on a compris que les pèlerins peuvent venir avec un petit siège pliant, pas avec le transat. Derrière toutes les questions que vous avez à gérer, Sébastien Mezouna, parce qu'il faut quand même que les auditeurs se rendent compte que pour le pèlerin, tout roule, mais pour vous, derrière, il y a un tas de choses auxquelles il faut penser, auxquelles il faut mettre en place.
Oui.
Par exemple, les sanitaires, toutes ces questions-là.
Un sanitaire pour 150 personnes, donc vous faites le
calcul. Ah, il y a des règles, il y a des quotas.
150 000 pèlerins, donc c'est environ 1000 sanitaires qui seront déployés sur tout le sanctuaire avec toute une organisation logistique de nettoyage, de vidage, d'approvisionnement. Et oui, et alors on est, je suis là aujourd'hui pour parler de ça, mais rien ne serait possible sans derrière toute une équipe qui travaille. Je pense notamment sur des questions de sécurité à Marc, à Bastien, à Philippe qui sont au quotidien sur ces sujets. À Isabelle, à Grégory sur les questions techniques, avec Patrick, bon bref, et j'en oublie certains, pardon, mais la chance que nous avons, c'est que accueillir le Saint-Père est un événement rarissime, exceptionnel, qui est un honneur et qui est un honneur pour nous-mêmes, et donc ça nous permet aussi de nous mobiliser de façon individuelle pour servir ce collectif et pour accueillir, on l'espère, le plus facilement possible tous ceux qui viendront à Lourdes.
Vous en attendez quoi, personnellement, Sébastien Mezouna, parce que vous êtes le nez dans le guidon avec vos équipes, est-ce que vous avez le temps parfois de prendre un peu de recul et de réaliser ce que vous êtes en train de préparer ?
Peut-être pas, parce que c'est vrai qu'effectivement, on est, comme vous le dites, le nez dans le guidon, mais à un moment donné, on va lever la tête. Je m'imagine ce temps où Léon XIV arrivera à la grotte, dans un silence assourdissant. Et qui va certainement me faire comprendre et nous faire comprendre à ce moment-là que voilà, tous ces mois de travail et de labeur qui ne sont pas encore finis, mais ont servi à ça et je pense que ça sera exceptionnel.
Le Saint-Père sera là dans un peu plus de 15 jours maintenant. Aujourd'hui, si on va dans la prairie, au sanctuaire de Lourdes, à quoi ressemble le sanctuaire ? Vous êtes en train de mettre en place... C'est un chantier.
C'est de la ferraille qui s'assemble. On entend les marteaux, les tubes. On commence à voir les géomètres qui font de repérage au sol. On a les entreprises de travaux publics qui sont en train de modifier la voirie, de préparer les installations. Petit à petit, tout ça va commencer à se structurer. On va visualiser d'ici quelques jours toute la structure du podium qui va recevoir son habillage. Les infrastructures de son, les écrans vont arriver.
Donc ça sera prêt combien de jours à l'avance ?
Les derniers éléments à installer seront les barrières, puisque nous avons 13 km de barrières à positionner dans le sanctuaire. Ça se fera entre le 21 et le 24-25 septembre.
En attendant, les pèlerins qui sont inscrits dans les pèlerinages prévus déjà bien longtemps, bien avant,
ils vivent leur pèlerinage.
Ils ne sont pas contraints.
Non, ils vivent leur pèlerinage. Alors, ils sont contraints pour le moment avec des adaptations. Par exemple, la procession eucharistique qui va être adaptée en louange eucharistique à la basilique Saint-Pédis, le geste de l'eau qui était sur la prairie et qui désormais est à la grande sacristie entre la grotte et les piscines. Donc, il y a des temps d'adaptation. Mais vraiment, la proposition pastorale et spirituelle doit rester jusqu'au dernier moment. Alors, effectivement, le samedi, cette proposition elle va se réduire de façon importante.
D'abord, l'accès va être...
effectivement, il faudra un titre pour pouvoir entrer au sanctuaire dès le samedi matin 6h.
C'est le titre qu'on aura eu pour s'inscrire pour le samedi soir.
C'est ça.
Permettra de rentrer le samedi toute la journée.
Qui permettra de rentrer le samedi toute la journée. Pour le dimanche, il faudra présenter le titre du dimanche pour pouvoir rentrer au sanctuaire.
En dehors de ça, même les Lourdais ne pourront pas rentrer.
Ah non, si vous n'avez pas de titre, vous ne pourrez pas rentrer. En fait, on fait ça pour quoi ? On fait ça pour garantir la sérénité et la quiétude. C'est-à-dire que ce site du sanctuaire, il est limité dans sa capacité et on ne peut pas exploser les jauges impunément sans mettre en péril la sécurité du pèlerin. Et ça, on ne veut absolument pas le faire.
Et si le gave fait des caprices ? Ça s'est déjà vu en septembre à Lourdes et au-delà.
Oui.
On sait très bien que le gave, on peut pas le commander. Il y a un plan B.
Il y aura de toute façon des mesures d'adaptation qui se feront, ne serait-ce que pour des questions de sécurité. À ce stade, elles ne sont pas communiquées et on espère ne pas les mettre en place. Mais effectivement, on y pense.
Qu'est-ce que vous attendez de la part des pèlerins ? Je vous ai demandé ce que vous attendiez, Sébastien Maisonnave, de cet événement, mais si vous aviez un message à faire passer aux pèlerins, ils vont devoir être patients, peut-être qu'il va pleuvoir, peut-être qu'il va faire très chaud, on ne le sait pas. Ils auront, on a bien compris, des animations, de quoi s'occuper, mais néanmoins la journée va être longue, les mouvements de foule peuvent parfois susciter un peu d'agacement. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire à ces pèlerins qui sont aussi auditeurs de Radio Présence ?
Soyez patients. Soyez patient parce qu'effectivement, il vous faudra du temps pour venir. Mais soyez confiants parce que nous mettons vraiment en œuvre tout notre possible pour pouvoir vous accueillir dans de meilleures conditions.
Dernière question, après je vous libère et je vous laisse retourner à votre travail. Le décompte là, des derniers jours dans l'ordre, c'est quoi la fin de la construction du podium ? Et puis, alors on a bien compris que les barrières, les 13 km de barrières, c'est le samedi, enfin à la fin. Mais qu'est-ce qui reste à faire ? Les grandes lignes de tout ce qui reste à faire ?
Alors, à aujourd'hui, les grandes lignes de ce qui reste à faire, ça va être les implantations des géomètres sur site pour venir.
Donc ça a commencé.
Tout ça, ça a commencé, ça va continuer. Puis les mobiliers qui vont s'installer, les installations techniques dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, quelques derniers schémas de réglage liés à la circulation et à l'accès des pèlerins. Et puis,
la signalétique, ce qu'on appelle la signalétique.
La signalétique. Et puis, on sera prêt.
Et vous serez prêt. Merci beaucoup, Sébastien Maisonnave. À très bientôt sur Radio Présence.
Merci.
Radio Présence, dans le Lauragais, 97.9.
Bonjour Anna Lasserre.
Bonjour Philippe.
Merci d'être fidèle à Radio Présence. Merci d'être avec nous. Vous allez nous lire des passages que vous avez sélectionnés dans les livres et dont vous avez choisi de commencer cette nouvelle saison de chroniques pyrénéennes en évoquant la création du musée pyrénéen à Lourdes.
Et oui Philippe, nous enregistrons ces chroniques dans les studios de Radio Présence, à Lourdes et nous voyons par les fenêtres, nous admirons par les fenêtres le musée pyrénéen qui se dresse sur son piton rocheux. Donc il était temps, à mon avis, d'évoquer sa fondation.
Tout à fait, parce que le musée se trouve dans le château fort. Hein. Voilà.
Oui. Ah, voilà, oui, c'est vrai. Oui, c'est exact. Et nous devons sa création à Marguerite et à Louis le Bon Didier, qui se sont pris de passion pour les Pyrénées, pour leurs habitants, pour les traditions, à un point tel que Marguerite Le Bon Didier décide même, Philippe, de se faire appeler Margalide, un dérivé de Marguerite usité dans les Pyrénées.
Ils habiteront même dans le château. Et à la mort de son mari, Margalide Le Bon Didier reste dans le château et poursuit l'œuvre commencée il y a près de 30 ans. Elle a alors 67 ans. On écoute donc le récit que vous avez sélectionné pour nous.
Le regard des écrivains sur les Pyrénées, Anne Lasserre.
Dans un ouvrage qui s'intitule « Femmes d'exception en Midi-Pyrénées », la journaliste philippine Arnal évoque Marguerite Louville, née en 1879, qui, par son mariage, devient Marguerite Le Bon Didier. Quand Louis Le Bon Didier, receveur de l'enregistrement, est nommé à Campan, tous deux découvrent les Pyrénées, se passionnent pour ces montagnes et fondent à Lourdes le musée pyrénéen. Sur le manche de son piolet et sur celui de son mari, Marguerite a gravé le nom de 15 sommets de plus de 3000 mètres qu'ils ont gravis ensemble, écrit Philippine Arnal. En moins de 2 ans, depuis leur arrivée à Campan en juillet 1901, ce jeune couple, originaire, elle des Ardennes, lui de Lorraine, a déjà réalisé la plupart des randonnées possibles dans la région et conquis de nombreux pics. Ils sont éblouis par les montagnes, le ciel, les lacs, les glaciers. Ils ne s'en détacheront plus. En quelques mois, ils enchaînent les grands classiques de la région. Le cirque de Gavarnie, le lac de Gaube et le bastia de Hesch, le pic du Midi de Bigorre. Puis les monts de plus de 3000 mètres, Néouvielle, le Mont Perdu et les deux pics d'Astazou, la Mounia, la Netto. Ils partent même pour un mois en randonnée avec un guide dans le but d'atteindre plusieurs sommets entre le mont Tartaud et les Posettes dans les montagnes catalanes et aragonaises. Le jeune couple, toujours accompagné de son chien Vénasque, est passionné par cette région d'altitude au point que Marguerite décide de changer de prénom pour celui de Margalide, son équivalent local. Margalide, en Bigorre, est aussi une fée, partagée entre le monde du visible et celui de l'invisible. De son côté, Louis, receveur de l'enregistrement, se documente sur l'histoire régionale et cristallise son centre d'intérêt dans la création, en novembre 1903, de la Fédération internationale des sociétés pyrénéistes, dont il restera le secrétaire général pendant 43 ans. Après avoir atteint au moins 22 pics de plus de 3000 mètres, Margalide est aussi la première femme des Pyrénées à chausser les skis, ce sport venu des pays nordiques. Mais c'est justement cette nouveauté qui, après une chute, lui cause un épanchement de synovie au genou et lui interdit définitivement la pratique des sports de montagne. Pendant l'été 1908, le bureau de l'enregistrement de Campan est supprimé et Louis, affecté en Dordogne, décide de démissionner. Cela fait longtemps qu'il songe à sa reconversion. Pour Louis Le Bon Didier commence une nouvelle vie, une nouvelle activité beaucoup plus prenante, organiser l'émergence du tourisme dans les Pyrénées. Il décroche d'abord une petite subvention pour rénover, aménager et chauffer l'ancien hospice de Payolle, futur hôtel de l'Arbison, et le transforme en refuge d'hiver pour les skieurs. Ils enchaînent par l'hôtellerie du Pic du Midi à Sancourt, actuelle hôtellerie de Costala. Et l'année suivante, ils organisent à Payolle le premier concours de ski des Pyrénées. Alors que Louis continue de réunir et de collectionner livres et documents sur l'histoire des Pyrénées, Margalide aime fréquenter les foires, les marchés locaux, pour glaner et réunir des objets typiques de la région. Quand arrivent les temps difficiles de la Grande Guerre, Louis, exempté, est enrôlé comme ambulancier à Bagnères, pendant qu'à Lourdes, Margalide s'occupe des réfugiés lorrains en leur apprenant la sculpture sur les portes de leur appartement. En 1918, quand la vie économique reprend, le couple Le Bon Didier, désormais connu pour ses initiatives touristiques, est sollicité pour mener une campagne de promotion des Pyrénées à travers la France. À leur retour, Louis est nommé inspecteur de l'Organisation touristique nationale. Margalide, elle, poursuit sa collecte des traditions pyrénéennes. De fil en aiguille, une idée émerge dans leur esprit et le château de Lourdes en ruine attire leur attention. C'est après avoir visité le musée Arlatène à Arles que Louis a le déclic. Parcourant le vieux château, l'idée me vint qu'il y avait autre chose et beaucoup mieux à faire. Ce qu'il fallait faire, c'était doter les Pyrénées du musée que Mistral avait donné à la Provence, dans le même sentiment de conservation, de glorification et de prosélytisme. Il fallait créer un musée de l'ensemble de la chaîne et sous tous les aspects de l'activité et de l'art humain dans les Pyrénées. En juillet 1920, le projet se concrétise sous la forme d'une convention entre la ville de Lourdes et le Touring Club de France pour 99 ans. Le couple Le Bon Didier a carte blanche pour la création du musée pyrénéen. Ils y investissent tout leur temps et leur argent en réparation et aménagement de salles laissées depuis longtemps à l'abandon. L'ouverture au public se fait en mai 1921 et l'inauguration officielle par le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts, Léon Bérard, se fait en septembre 1922. Louis est nommé conservateur honoraire et Margalide secrétaire, puis rapidement conservatrice adjointe. D'abord bénévole, ce ne sont que plusieurs années plus tard, alors que le nombre d'entrées payantes au musée a explosé, que Louis réclame un salaire. Le 21 avril 1921, Louis et Margalide dorment pour la première fois dans le château où un appartement a été aménagé à leur intention. Et voici comment a été fondé à Lourdes le musée pyrénéen. Margalide ne cesse de travailler et d'année en année, les reproductions de maisons régionales se multiplient sur l'esplanade du château. Elle conçoit même l'éclairage intérieur des maquettes, met en scène des personnages taillés dans le bois. En 1931, la barre des 100 000 visiteurs par an est dépassée. Le passage retenu est extrait d'un ouvrage intitulé « Femmes d'exception en Midi-Pyrénées », ouvrage écrit par Philippine Arnal et publié en 2012 par les éditions du Papillon Rouge.
Voilà, le château fort et son musée attirent toujours de très nombreux visiteurs et les maquettes ont un grand succès auprès du public. Il faut dire qu'elles sont très très réussies. On peut admirer une maison basque, une maison de Salice du Béarn, Saint-Bertrand de Comminges, un village du Haut-Aragon, etc. En plus, elles sont bien exposées, elles sont sur la grande terrasse, on a une vue sur Lourdes et c'est magnifique.
Ah, c'est magnifique, moi j'ai beau les voir et les revoir, je les admire toujours autant.
Oui.
Et on peut préciser, Philippe, que ces maquettes sont construites avec du fer, du bois, du ciment, des ardoises, et les détails et les mises en scène sont remarquablement soignés.
Voilà, et c'était Margalide qui l'avait fait, hein, tout ça.
Oui, oui, oui.
On peut également signaler qu'à l'intérieur de la forteresse est présenté un riche patrimoine évoquant la vie domestique, la vie rurale et pastorale au XIXe siècle. Des expositions ont lieu régulièrement dans les murs du musée pyrénéen. Cet été, une exposition a été consacrée au pyrénéiste et photographe Lucien Brier.
Oui, et tout cela, c'est grâce à Louis et Margalide Le Bon Didier. Et deux sommets portent d'ailleurs le nom de ces amoureux des Pyrénées. Il existe un pic Le Bon Didier et un pic Margalide. Et si je ne me trompe, Philippe, je crois qu'ils sont tous deux dans le massif de la Maladeta.
Je vous crois sur parole. On peut enfin rappeler qu'une curieuse légende est attachée au château fort de Lourdes. Charlemagne, en revenant d'Espagne, a assiégé ce château dont le seigneur était alors un prince sarrasin du nom de Mira.
Oui, et le château alors s'appelait Mirambelle et le siège se prolongeait. Le château était à court de vivres et un aigle qui venait de pêcher une énorme truite la laissa échapper en survolant le château.
Habileté suprême, hein. Mira offrit cette truite à Charlemagne, faisant croire que le château regorgeait de provisions.
Oui.
Voilà. Et donc, c'est ce qui explique le blason hein, de voilà. La ville de Lourdes, hein, avec
oui.
la truite,
voilà,
l'aigle.
Voilà, les tours du château.
Exactement.
Et la truite.
Et en fond, les sept pics des Pyrénées.
Voilà.
Voilà. La semaine prochaine, avec vous, vous évoquerez la vie d'autrefois dans le Béarn grâce à un ouvrage du journaliste Jean-François Ratona. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Philippe.
Merci beaucoup, Anne Lasserre. Au revoir.
Au revoir.
Lança, menina, lança todo o seu perfume. Desbaratina, não dá pra ficar imune ao seu amor que tem cheiro de coisa maluca. Vem cá, meu bem, lhe descola um carinho. Eu sou neném, só sossego com beijinho. Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo. Me aqueça, me vira de ponta cabeça, me faz de gato e sapato, me deixa de quatro no ato, me enche de amor, de amor. Lança, parara, parara, lança perfume, parara, parara, uou, uou, lança, parara, parara, lança perfume, parara, parara, uou, uou.
Présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Aucun évêque ne marche seul. Le pape a reçu ce matin 147 nouveaux chefs de diocèse ou d'éparchie.